Et bonjour à tous. Comment défaire la tyrannie du présent? Flux d'informations, hyperconnexion, productivisme, nos horloges ne tournent plus rond. À partir de l'expérience zapatiste du temps entre mémoire et avenir, il nous invite à arrêter cette fuite en avant et à rouvrir le futur. L'historien Jérôme Bachet sera l'invité de la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, surnommé le Guerre et Paix espagnol, best-seller vendu à plus de 700 000 exemplaires en Espagne, Patria arrive en France, publié par Actes Sud, traduit par Claude Bleuton. Plus de 600 pages, un livre frais de micro-chapitres, 125 au total. Le livre est en cours d'adaptation pour devenir série. Alors pourquoi ce succès et surtout un tel phénomène au Pays Basque? On en parle tout de suite avec son auteur, l'écrivain Fernando Aramburu. Il est notre invité sur France Culture, à écouter maintenant.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Patria, un roman qui revient sur les années de plomb d'Eutea à travers l'histoire de deux familles que l'histoire va séparer. Le patriarche de l'une va mourir dans un attentat auquel a participé le fils de l'autre famille. Sa veuve veut comprendre et obtenir des excuses, car sous la plume de l'écrivain, demander pardon exige plus de courage que de tirer au pistolet ou de déclencher une bombe. Bonjour Fernando Aramburu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour à votre voix française, Claudine Rimattei.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Pourquoi vous êtes-vous attelé à cette vaste entreprise littéraire et mémorielle, Fernando Aramburu?
Je crois que Patria est un livre qui était à l'intérieur de moi, mais je ne le savais pas. Pour le comprendre, il faudrait expliquer que je suis né à San Sebastián, au Pays Basque, en 1959, l'année où l'ETA a été créé. C'est-à-dire que le phénomène de cette violence politique dans mon pays de naissance m'a accompagné depuis tout petit. Mes souvenirs me rapportent des images sanglantes, des explosions, des autobus en feu, des veuves, etc. Donc, il serait étrange qu'un écrivain qui, grâce à la littérature, veut laisser un témoignage de l'époque dans laquelle il a vécu et des personnes qui ont habité là, à laquelle l'époque, n'aborde pas un thème qui m'est si proche. Et bien sûr, le roman est un genre qui me permet d'exprimer mes pensées de façon déjà régulière.
Il a été écrit en espagnol, ce roman, pas en basque, malgré l'utilisation de certains mots. Vous diriez que Patria est néanmoins un roman basque?
Bon, moi j'écris dans ma langue maternelle, qui est l'espagnol. C'est la langue que l'on parlait dans mon village, c'est la langue que l'on parlait à l'école.
Et
la façon de parler depuis quelques années, c'est l'allemand, en réalité. Mais la langue espagnole est celle que je parle de façon presque instinctive. Et donc, c'est la seule qui me permet de m'exprimer avec une certaine garantie littéraire.
L'allemand, parce que vous avez mis entre votre terre natale et vous une distance géographique, Fernando Aramburu, puisque vous vivez aujourd'hui en Allemagne. On imagine que ça change un peu votre manière d'écrire, ça change aussi votre perception de la situation au Pays Basque. Est-ce que le Pays Basque reste néanmoins votre patrie? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de patrie, puisque le titre du roman est « Patria » ?
Bon, moi, je suis allé vivre en Allemagne dans les années 80. Tout simplement parce que je suis tombée amoureuse d'une jeune Allemande. Et avec bonheur, nous sommes toujours ensemble. C'est le seul recul que j'ai pour pouvoir écrire. Cela signifie que je n'ai aucune idée de ce qu'aurait été mon œuvre littéraire si j'étais resté en Espagne, par exemple. Bien sûr, cette distance, ce recul a eu une certaine influence parce qu'elle m'a donné une vision panoramique de tous ces événements dans mon pays. Moi, au début, naïvement, je pensais que j'avais laissé derrière moi ma terre natale. Mais en fait, ce n'est pas vrai. À chaque fois qu'il y avait un attentat, cela m'interpellait. Très souvent, je me rendais compte que tous ces événements sanglants dans mon pays natal m'interrogeaient quelque part et me demandaient si moi je n'avais rien à dire, si je ne pouvais pas commenter. D'un autre côté, j'ai eu un accès direct très rapidement à la presse allemande. Et ceci est très intéressant. Parce que comme ça, on peut savoir exactement, sans préjugés, ce que pensent les étrangers de ton pays natal. Donc, cette question me la pose très souvent. Quelle est ta patrie? Et je dois dire que c'est un mot qui, pour moi, est assez antipathique. Moi, je n'ai jamais trop aimé cette espèce de sentiment collectif. Bien sûr que je m'identifie avec certains paysages, avec la nourriture, la cuisine, avec la musique. Et bien entendu, je suis ravie quand mon équipe de foot gagne. Si je devais me construire une patrie, eh bien, je la ferais avec des petits morceaux de différents pays. Et ainsi, ce serait une patrie ouverte à tout le monde. Et sa capitale serait ma bibliothèque.
Dans Patria, chapitre 109, Rabière va à une rencontre des journées sur les victimes du terrorisme et un écrivain intervient durant cette rencontre. Il vient de finir un livre sur les victimes des attentats. L'écrivain prit la parole. Il salue, remercie de l'invitation et dit que il y a des livres qui mûrissent en soi pendant des années, guettant l'occasion d'être écrits. Le mien, dont je suis venu vous parler aujourd'hui, en est un exemple. L'idée initiale. Avec toute la discrétion nécessaire, Rabière, au fond de la salle, essayait d'identifier quelques-uns des spectateurs. Vu de dos, ce n'était pas simple, outre le fait qu'il ne connaissait personnellement ni victime de l'ETA, ni famille de victimes. Certes, il en connaissait quelques-unes, comme tout le monde, pour les avoir vues à la télévision ou en photo dans le journal. Et ce projet de composer par le truchement de la fiction littéraire un témoignage des atrocités commises par la bande terroriste procède dans mon cas d'une double motivation. D'un côté, l'empathie que j'éprouve pour les victimes du terrorisme, de l'autre, le rejet sans réserve que suscite en moi la violence et les agressions dirigées contre l'état de droit. Ça, c'est l'écrivain qui se prononce à ce moment-là, qui parle. Est-ce que c'est votre double, Fernando Aramburu, cet écrivain qui surgit dans le chapitre 109 de Patria ?
Eh bien, tout ce que vous venez de lire font partie d'une de mes interventions dans un congrès organisé par une association de victimes du terrorisme. Et j'ai pensé qu'il serait opportun d'apparaître à ce moment ou à un autre dans mon roman pour exprimer ma motivation profonde pour faire ce travail, mais également parce que je voulais que le lecteur se rende compte que, en fait, aucun personnage ne m'incarne vraiment. Je n'apparais jamais en tant que personnage. J'apparais comme une espèce d'objet parlant qui est observé par les autres personnages. Et maintenant que mon roman va peut-être être adapté à la télévision, eh bien le producteur m'a demandé si je voulais apparaître dans cet épisode en me représentant à moi-même. Eh bien, effectivement, cet écrivain qui apparaît dans mon roman n'est pas vraiment mon double. En fait, c'est moi-même.
deux familles divisées par les événements dans Patria, deux familles d'abord amies que la mort du patriarche assassiné, le Chato, va diviser, des familles aussi fracturées en leur sein par les années, au fil du temps. Dans Patria, vous vous adressez, vous dressez plus directement contre la violence aveugle, celle qui consistait à faire sauter par exemple le commerce d'automobiles d'un type dont on racontait ceci d'un côté, ceci de l'autre, écrivez-vous. Était-ce vrai? Peu importe, ils le firent sauter quand même. Pour pas grand-chose, à l'époque, on pouvait aussi être désigné ennemi du peuple ou mouchard. Vous vous dressez donc contre cette stratégie de la peur, Fernando Aramburu, qui réduit les hommes au silence. Entre les bourreaux et les victimes, quelle est la juste place du roman, connu pour son art de la manipulation littéraire, auteur de L'Imposteur? Je vous propose d'écouter, avant de vous redonner la parole, celle de l'écrivain espagnol Javier Cercas, qui revient sur son attirance pour les zones grises.
Je dirais, je cherche à comprendre tout. Et comprendre tout, ça veut dire comprendre le mal aussi, le mauvais côté aussi, peut-être principalement. Parce que peut-être c'est plus important de comprendre les bourreaux que les victimes. Parce que c'est facile de comprendre les victimes. Et bien sûr, il faut être avec eux. Mais c'est peut-être plus important de comprendre les bourreaux. Parce que seulement si on comprend les bourreaux, peut les détruire, peut les attaquer. Et surtout, la suspension des jugements moraux, je crois que c'est essentiel dans un roman. Pourquoi? Parce qu'un roman ne juge pas. Un roman travaille avec l'ambiguïté, avec les ironies, avec les contradictions morales, politiques et tout ça. C'est-à-dire, ce qu'il doit montrer, c'est toute l'immense complexité de la vie morale, de la vie politique, de la vie en général. Et je cherche toujours ces lieux d'ombre, ces zones d'ombre, ces zones de grise, pour utiliser l'expression de Primo Levi. Je ne cherche pas ça délibérément. Je dois dire que j'ai une attraction pour ça.
Est-ce que vous aussi, Fernando Aramburu, vous avez cherché à ne pas juger vos personnages?
Je n'ai pas écrit un roman pour décider qui est bon et qui est méchant. Je ne fais pas une narration, je n'explique pas. Je ne me pose même pas la question de savoir si un personnage est un bourreau ou une victime. Effectivement, la complexité humaine est la matière véritable de mon roman. Et elle doit exister toujours dans un récit. Moi, j'ai une conviction propre, et c'est la suivante. La vie m'a montré que aucun être humain cesse d'être un être humain, même après avoir commis des choses abominables. Et montrer cela sans induire le lecteur à arriver à des conclusions, c'est ce qui m'a permis d'écrire ce roman. L'être humain est fait de telle façon que, par exemple, le matin, il embrasse sa mère avant de partir au travail. L'après-midi, peut-être, il commet un crime. Et le soir, il rentre chez lui et il caresse le chien. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut appeler ces différents comportements l'ambiguïté. Pour moi, l'ambiguïté n'est acceptable que si l'écrivain n'agit pas en tant que juge ou comme Dieu, comme un Dieu qui sauve ou qui condamne. Moi, j'ai toujours conçu un roman comme le genre idéal pour mes lecteurs. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils cohabitent dans un lieu et à une certaine époque.
Et de fait,
si vous lisez mon roman avec une certaine attention, vous verrez qu'il n'y a pas une interprétation par les blancs ou les noirs comme dans les jeux d'échecs. Même dans la famille qui est victime de la violence, eh bien, vous verrez que les personnages ne sont pas tout blancs non plus. Ils ont leurs défauts et aussi leurs errances.
Extrait de Patria. Il rit sans savoir pourquoi, car en réalité, il se sent sale, boueux, moisi de tristesse. Soit juste, soit intègre. Oui, Aïta, il sent qu'il a atteint le point critique au-delà duquel la moindre goutte de cognac supplémentaire l'obligerait à laisser sa voiture au parking et à prendre un taxi. Alors il range la bouteille dans le tiroir, regarde le bracelet vert édoré et déclare « Demain, je le lui rends, putain de merde. Pourquoi je ne l'ai pas baisé ?» Réponse « Parce que tu es un con. » Son père approuve sur la photo. Et Rabière, dans un sursaut d'insolence, toi, tu te tais. C'est aussi ça qui fait la force de ce roman que vous avez écrit, Fernando Aramburu, c'est que c'est un roman polyphonique, où chacun a le droit à la parole, où le prend, ce droit, même les morts, pas directement, mais par l'intermédiaire des vivants. On l'entend dans ce passage où le père s'exprime dans l'esprit du fils Rabière. C'était important pour vous de donner voix à tout le monde.
Sí, yo decidí antes de ponerme al trabajo que.
Eh bien, moi, bien avant même de me mettre à travailler, j'avais décidé que tous les personnages de mon roman auraient une responsabilité dans la narration. Pour que tous les lecteurs puissent se faire une idée du personnage et se rendre compte eux-mêmes de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent. Quels sont leurs rêves, quelles sont leurs souffrances et quelles sont leurs joies.
Avant, il y avait des liens étroits qui unissaient ces deux familles, si proches que le fils de l'une a vécu comme un geste incestueux d'embrasser la fille de l'autre famille quand ils étaient à peine majeurs l'un et l'autre. Puis, la société s'est trouvée divisée par cette crevasse noire sans fond, telle que vous la décrivez, qui venait parfois séparer aussi les couples, comme Nerea et Eneko, et les familles. Par l'assassinat du père, El Chato, tué après avoir refusé de payer l'impôt révolutionnaire. Le récit s'ouvre sur le retour au village de la mère, Bitori, femme courage, plus de 15 ans après la mort de son mari quand le TA met fin à sa lutte armée. C'est toute une question que vous travaillez aussi entre ces pages, entre ces lignes, Fernando Aramburu. Comment bascule-t-on dans la lutte armée? Pourquoi rejoint-on une cause? Vous, l'enfant de San Sebastian, cette esthétique révolutionnaire, est-ce qu'elle aurait pu aussi vous séduire?
Eh bien, moi aussi, j'ai eu 14, 15, 16 ans, alors que j'étais à Saint-Sébastien. Et comme tous les autres adolescents, bien sûr, j'étais exposée à l'endoctrinement, à une certaine attirance esthétique. Je crois qu'il est impossible de ne pas pouvoir se définir par rapport à un mouvement social ou politique qui, bien sûr, influe sur toute la société. Heureusement, la violence ne m'a jamais attirée. Quand j'ai vu que quelques-uns de mes camarades de l'école étaient attirés par les armes ou par la violence, moi je m'en suis éloigné immédiatement. Et j'ai eu la chance de vivre dans une petite ville et non pas dans un petit patelin, dans un village où tout le monde se connaît
et
où il est impossible de faire un pas sans que tous les autres soient au courant. Moi j'ai été élevé dans une famille très aimante. Et donc, dès mes 15 ans, j'étais devenu un passionné de la littérature, de l'art, de la culture. Et ceci m'a vacciné vraiment contre le fanatisme. Cela m'a démontré que le monde ne finissait pas au bout de ma rue. Nos traditions identitaires ne m'ont jamais paru vraiment uniques. J'ai très vite compris qu'il y avait d'autres pays, d'autres formes de culture que j'avais vraiment très envie de connaître. Et en plus, moi, je n'ai jamais pensé qu'en faisant du mal à d'autres, on pouvait construire une société où l'on pouvait vivre ensemble de façon plus ou moins agréable.
Là, c'est le fils de la famille Mirène dont on se demande si c'est lui qui a commis l'acte. C'est lui qui, comme le formule l'un de ses camarades de Théa, va rêver d'un paysage paradisiaque fait de socialisme et d'indépendance avec les 7 territoires d'Euskal Herria réunis sans classe sociale ou même l'herbe, combien tu paries, parlera l'euskera. Voilà comment vous racontez aussi cette idéologie, ce rêve révolutionnaire qui a pu porter toute une génération, la culture que vous présentez aujourd'hui comme un refuge, Fernando Aramburu, c'est la possibilité aussi de pouvoir lire tout ce qu'on peut et de mener ensuite ce que vous considérez aujourd'hui comme un combat culturel. Que peut l'imagination pour la politique ?
Bon, je pense que ce phénomène est absolument primordial. Si l'on considère que l'être humain vient des cavernes ou même avant du singe, et on voit tout le parcours historique, et si l'on voit tous les biens culturels, les merveilles de l'humanité, le fait qu'on soit arrivé sur la Lune, toutes les recherches extraordinaires, il y a quelque chose de positif, c'est-à-dire il faut s'éloigner du primitif initial. Je pense que la culture joue vraiment ce rôle pour améliorer les gens. Le fait d'être intelligent ne veut pas dire que les personnes ne deviendront jamais méchantes ou ne feront jamais partie de ces mouvements très agressifs. Mais une personne qui a reçu une certaine éducation, qui a une certaine créativité, qui voyage, qui apprend des langues étrangères, eh bien, c'est une personne qui tout naturellement tendra à la tolérance et qui sera tout à fait prédisposée à cohabiter avec quelqu'un de différent. Donc, il y a un personnage dans mon roman qui s'appelle Gorka, qui partage justement cette opinion. Et moi, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il pense. Il me semble qu'un jeune qui n'ait aucune formation, aucune éducation, ou du moins une éducation pas suffisante, est beaucoup plus vulnérable à l'endoctrinement, à la force des dogmes.
ETA, c'est plus de 50 ans d'activisme avec son bras politique, Herri Batasuna, dont l'organisation se dotera 10 ans après sa création. L'ETA va continuer la lutte armée, même après la mort de Franco. Aujourd'hui, l'organisation séparatiste a annoncé son désarmement. C'était l'an dernier. À l'ordre du jour, maintenant, sa dissolution pure et simple. Est-ce qu'une page est réellement en train de se tourner, Fernando Aramburu? Est-ce que le fait que cette page serait même en train de se tourner justifie le fait que votre roman soit si lu et si accepté aujourd'hui? Est-ce qu'il est le temps de la réflexion est arrivé pour vous?
J'ai écrit mon roman dans la solitude de mon bureau pendant 3 ans. Et bien entendu, je ne pouvais pas prévoir ce qu'il adviendrait après sa publication. Quand j'ai commencé à écrire, le TA avait déjà annoncé qu'il mettrait fin à la lutte armée.
En réalité, cette
annonce a été le déclic pour mon roman, puisque mon roman commence avec le désarmement de l'ETA. La disparition de la violence, bien entendu, est une condition sine qua non, sans quoi on ne peut même pas imaginer reconstruire les liens sociaux, refaire la société et vivre ensemble. Je pense que c'était le moment de raconter, de partager tous ces témoignages de toute nature, historique, cinématographique, littéraire. Ce témoignage doit être obligatoirement multiple parce qu'une seule personne ne peut pas, avec un seul livre, couvrir toute cette énorme histoire collective. Bien sûr, il y a eu des enquêtes il y a peu de temps qui disaient que la génération actuelle de base ne savent pas très bien ce qui s'est passé dans dans ces avenues, dans ces rues ou dans ces villages où maintenant ils jouent et ils passent du bon temps. Je pense qu'il n'est pas inutile qu'on raconte ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut recréer la mémoire, mais la situer dans un lieu où les générations actuelles ou du futur pourront venir chercher des réponses, des informations, ou pour avoir des questions que peut-être ils ne se seraient jamais posées.
Et c'est une mémoire complexe, on l'entend encore en ce moment, même pour les anciens prisonniers, il ne faut pas perdre la face. Certains continuent d'ailleurs d'être acclamés en héros à leur sortie de prison. Une motion vient d'être votée par le Parlement basque qui condamne ces hommages publics à ceux qui ont utilisé la violence à des fins politiques. Il y a des blessures qui ne se refermeront peut-être jamais vraiment, comme en témoigne Bitori, la veuve, la mère, dans votre livre Patria, Fernando Aramburu. Sous votre plume, elle dit « On m'a fait tant de mal qu'aucune blessure ne peut se refermer. Tout mon corps est une blessure. Je ne crois pas avoir besoin de te l'expliquer. Si au bout du compte, il me restait une cicatrice, ce serait celle d'une grande brûlée. Je ne serais qu'une cicatrice de la tête aux pieds. » Et c'est pour ça que vous avez tricoté, vous, l'écrivain, un récit à partir des souvenirs des personnages, ou plutôt des pensées, ou plutôt des images. Les temps, subitement, se rembobinaient en accéléré. Le temps, un film qui racontait sa vie à rebours, écrivez-vous. Voilà comment lutter peut-être contre l'oubli. Il faut en passer parfois par une mémoire qui se vide pour reprendre le titre de l'un de vos chapitres et remettre des bases solides à l'intérieur de cette mémoire collective. Un mot juste de la crise catalane qui sévit, entre guillemets, depuis plusieurs mois. Comment vous l'avez vécue ? C'est une crise plus politique pour le coup. Est-ce que vous vous êtes positionné par rapport à cette crise-là, vous, le Basque ?
Je dois avouer que, en ce qui concerne les événements en Catalogne, je me considère comme un citoyen, comme les autres, qui essayent de s'informer. Et moi, je ne vois pas en Catalogne, alors que j'ai vraiment vécu au Pays Basque. Bien entendu, je connaissais les personnes impliquées dans l'histoire collective du Pays Basque. Mais je vois une différence énorme en Catalogne, jusqu'à aujourd'hui pour le moins. Il n'y a pas eu d'attentat. Et peut-être que cela facilitera dans le futur de trouver une voie, une solution que je ne connais pas, bien entendu. Donc je ne peux pas vous la proposer. Bien sûr, si j'avais une recette miracle pour trouver une solution, je vous la donnerais. Mais je suis triste de voir que certains de mes amis catalans ne se parlent plus entre eux pour des raisons strictement politiques. Et il y a beaucoup de familles qui ont été divisées à l'intérieur pour les mêmes raisons. Je trouve ça lamentable parce que ceci influe de façon tellement négative sur la vie privée de tant de personnes.
Merci beaucoup Fernando Aramburu. Merci d'être passé autour de cette petite grande table. Et un grand merci à votre voix française, Claudine Rimatei, pour cette traduction en direct. Merci mille fois.
Merci.
Enchanté.